Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Le 28 juin, c'est la date retenue pour le second tour des élections municipales en France. C'est ce qu'a décidé le gouvernement et sauf contre-ordre pour des raisons sanitaires, c'est ce qui va arriver. On connaît maintenant d'ailleurs les forces en présence puisque le dépôt des listes a eu lieu la semaine dernière avec parfois quelques surprises. Mais avec un second tour aussi éloigné du premier, plus de trois mois, l'impact de la pandémie sur ce premier tour, puis sur les enjeux d'une campagne bousculée et désormais distanciée et peut-être difficilement audible, le second tour des élections municipales a-t-il encore un sens? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous par téléphone, car nous continuons à garder nos distances. Martial Foucault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sciences politiques, directeur du CEVIPOF, c'est le centre de recherche politique de Sciences Po, et auteur du livre « Maire au bord de la crise de nerfs, la démocratie locale peut-elle survivre ?» C'est aux éditions de l'Aube. Olivier Hill, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes professeur de sciences politiques et de sociologie historique à Sciences Po Grenoble. Et Bruno Jeudy, bonjour. Bruno Jeudy, vous m'entendez ? Alors, on va certainement retrouver Bruno Jeudy, qui est rédacteur en chef politique et économie à Paris Match. Martial Foucault, que vous inspire ce second tour pas comme les autres ?
S'il s'agissait de répondre à votre question, est-ce que le second tour a encore un sens ? Je dirais que oui, il faut au moins clore cette séquence électorale qui effectivement présente un caractère historique et inédit sous la Ve République, d'avoir attendu plus de trois mois pour voir les électeurs se rendre au second tour dans les 4900 communes qui doivent encore désigner leur maire. Donc il faut terminer cette séquence électorale, quand bien même je pense que on est une situation inédite et qui pose un problème sur la légitimité ou la qualité démocratique avec lesquels les maires vont être installés, parce que pour moi la question de la participation, dont on a vu qu'elle avait été très très faible le 15 mars dernier, ne présente pas de garantie cette fois-ci le 28 juin qu'elle sera en hausse et qu'on reviendra sur une tendance moyenne des précédents scrutins. Donc on va se retrouver avec des maires qui vont être élus, aller avec peut-être 50% de participation, ils vont recevoir une majorité de suffrages, mais finalement cela veut dire qu'en nombre de voix par rapport aux inscrits, ça sera très très faible. Et pour moi, je vois une source d'inquiétude majeure qui est au fond des maires qui, lorsque se présenteront des premiers problèmes dans la gouvernance municipale, seront rappelés à se souvenir d'avoir été, je dis pas mal élus, mais en tout cas avec une participation très faible. Et puis le deuxième point, il se trouve qu'on a quand même des candidats qui auront fait une campagne du premier tour sur des thématiques qu'ils ne parviendront pas à installer au second tour, parce que crise sanitaire oblige, verront finalement les électeurs devoir se prononcer sur des enjeux qui n'étaient pas ceux qui ont conduit à l'élimination de candidats au premier tour.
Alors, Olivier Hill, c'est déjà arrivé à votre connaissance, trois mois entre deux tours de scrutin ?
Non, pas pour un scrutin à caractère national. Il y a eu évidemment des interruptions pour des scrutins locaux. On pense à des législatives comme celle de 1973 à La Réunion. Là aussi, pour une raison totalement extérieure, un cas de force majeure, il s'agissait d'un typhon qui avait dévasté l'île. Mais évidemment, en dehors des guerres au XXe siècle, des guerres mondiales, il n'y a pas eu de précédent de cette nature. Donc nous sommes devant un cas de figure inédit. Mais j'ai envie de dire, pour répondre à la question, puisqu'elle est là maintenant bien débattue, je pense que à l'évidence, ce scrutin est plus que nécessaire. Il faut clore, ça a été dit par mon collègue à l'instant, la séquence qui s'est ouverte en mars, mais il faut aussi maintenant ne pas oublier qu'il y a d'autres séquences électorales qui arrivent, et très vite. Bien sûr, les régionales en 2021 et la présidentielle en 2022, mais dès septembre, là, qui arrive en 2020, les sénatoriales. Et ces sénatoriales ont besoin, pour s'organiser évidemment, que ce scrutin du second tour de la municipale se soit tenu, puisque la moitié des sénateurs vont être renouvelés et que la majorité dont bénéficie M. Gérard Larcher, l'un des principaux opposants à la présidence de la République, va évidemment être en jeu. Et donc c'est un scrutin qui, pour des raisons politiques, a une importance majeur. Je ne reviens pas sur les dimensions économiques, relancer l'investissement par le biais des politiques publiques, des intercommunalités et des communes. Hein, il faut bien que celles-ci puissent à nouveau relancer ou prendre en charge leurs responsabilités. Et bien entendu aussi ne pas laisser la démocratie locale en panne. C'est une dimension civique, hein, on ne peut pas attendre plus. Après tout, pour toutes ces raisons, et il y en a encore d'autres, on ne peut que se féliciter que ce scrutin se tienne et se tienne enfin.
Bruno Jeudy, on vous a retrouvé. Bonsoir.
Merci.
Y avait-il une bonne solution pour la date d'organisation de ce second tour ou est-ce qu'au contraire, finalement, il n'y avait que des mauvaises solutions ?
Non, justement, il n'y avait que des mauvaises solutions. À partir du moment où ce premier tour s'est déroulé dans les conditions que l'on connaît, que faute peut-être d'avoir anticipé, parce que les reporter deux jours avant, comme ça avait été un moment envisagé, comme le président a pu peut-être le penser, c'était impossible, il n'y avait pas de consensus politique, donc c'était impossible. Ce premier tour s'est déroulé dans des conditions impossibles. Et donc, à partir du moment où l'autorité politique a décidé d'entériner les résultats, notamment pour les maires élus dès le premier tour. Ensuite, il n'y avait plus de bonne solution, soit le 28 juin, soit la rentrée, soit même éventuellement janvier 2021. Tout ça était de toute façon acrobatique. Et au final, c'est peut-être la moins mauvaise des mauvaises solutions qui a été retenue pour les raisons qui ont été évoquées avant par vos invités. Mais de toute façon, ce scrutin sera marqué du sceau d'une forme de contestation. On entend déjà le Rassemblement national parler des maires élus comme des maires Covid, ce qui est absolument affreux comme signification. On voit bien que tout ça sera sans doute laissera beaucoup de traces dans cette mandature. Et c'est dommage parce que franchement, l'élection des maires, c'est l'élection qui, après la présidentielle, intéresse le plus et les Français. On le voit normalement dans les chiffres de la participation. Et là, évidemment, elle n'était pas là au premier tour. Et je crains que le second tour soit guère plus brillant en termes de participation.
Martial Foucault, les deux interlocuteurs qui vous ont suivi ont parlé du premier tour. Le premier tour a été marqué, évidemment, par cette pandémie de Covid-19. Est-ce qu'il est soldé ? Est-ce que le bilan a été fait ? Parce qu'il y a eu des contaminations, c'est à peu près acquis. Ce qui s'est passé au premier tour, est-ce que ça va peser sur le second ?
C'est une question très, très difficile parce qu'on voit bien que tous les territoires ne sont toujours pas aujourd'hui exposés à la même, je dirais, même diminution de la propagation du virus. Le conseil scientifique semble indiquer avec beaucoup de prudence qu'aujourd'hui, les conditions sont réunies à tout le moins pour que ce scrutin puisse s'organiser sans qu'il y ait un risque de contamination pour bien sûr les électeurs, mais aussi les assesseurs. Et je crois que la grande difficulté aujourd'hui, c'est trouver des assesseurs, des volontaires, des personnes qui vont accepter de prendre, même si le risque est faible, il y a quand même un risque. Mais d'une certaine manière, je crois qu'on peut pas dire que l'élection du premier tour a contribué à une propagation du virus. En revanche, on peut davantage s'interroger sur les effets du virus au 15 mars dernier sur la participation. Et là, je crois qu'il n'y a pas véritablement un consensus. On a pu observer que pour une élection municipale, on le sait de manière très bien documentée, qu'on a deux sous-populations qui se déplacent facilement ou plus facilement que le reste de la population française. Ce sont les personnes âgées, tout d'abord, et puis, deuxièmement, les personnes les plus éduquées. Et quand on sait que lors d'une élection municipale, les taux de participation sont régulièrement beaucoup plus faibles dans les centres urbains, dans les métropoles, au mois de mars, la situation n'était, excepté le Grand Est, mais était moins critique dans les autres métropoles. Or, nous avons vu une baisse de la participation généralisée et en particulier pour les personnes âgées. Donc, l'enjeu pour le 28 juin, c'est que finalement le corps électoral puisse se déplacer sans prendre de risques. Ça, c'est le premier point. Et puis, j'ajouterai un deuxième point. Évidemment, la mobilisation pour le 28 juin va dépendre aussi de l'offre électorale. Et vous l'avez indiqué, maintenant que l'on connaît la composition des listes présentes pour ce second tour, on peut aussi imaginer que lorsque les jeux seraient quasiment faits, indépendamment du Covid, les électeurs ne vont peut-être pas se presser dans les bureaux de vote pour choisir leur futur maire.
Olivier Hill, qu'est-ce que la crise change sur les enjeux du scrutin? Entre le premier et le deuxième tour, il s'est passé 3 mois, bien sûr, on l'a dit, mais il s'est surtout passé quelque chose de grave. Il y a eu des morts, y compris au sein des partis, jusque la semaine dernière. Hein, on a entendu parler de décès d'hommes politiques de premier plan. Est-ce que c'est une bonne chose de repartir avec les mêmes listes, les mêmes programmes? Est-ce que ça vous paraît sain?
Alors d'abord, ce ne sont pas les mêmes listes ni les mêmes programmes. Hein. Il y a eu tout un travail qui s'est opéré jusqu'au dépôt des listes.
Hein, oui, de négociation et de fusion.
Absolument. Voilà, de négociation et des investitures. Hein. Par exemple, l'AREM a investi pour être plus d'une centaine de maires sortants, en particulier pour les deux tiers à droite. Donc a en quelque sorte accéléré déjà sa stratégie en vue des prochains scrutins, hein, pour rendre plus poreuse la frontière avec le Parti des Républicains, pour le dire autrement, pour rallier hein, les dernières fractions libérales, humanistes et européennes du Parti des Républicains. Donc il y a eu tout un travail qui a été fait. Alors évidemment, cette césure importante de 3 mois laisse des traces. Il y a un climat évidemment plus anxiogène, des mesures de sécurité sanitaire qui sont présentes, une campagne qui a été bousculée, bouleversée, même c'est évident. Reste que la politique a gardé tous ses droits. Et chaque parti est heureux, en quelque sorte, et dissimule mal d'ailleurs son plaisir, de pouvoir aller à nouveau à la bataille électorale. Alors le Rassemblement national pour essayer de conserver ses 12 maires élus en 2014, pour essayer de mettre à l'épreuve son alliance avec le Parti chrétien démocrate, qui en quelque sorte préfigure une sorte d'action pour briser ce plafond de verre qui pèse sur lui, les Verts pour s'affirmer comme première force à gauche et laisser le Parti Socialiste derrière lui, les Républicains pour essayer de rebondir et essayer de faire oublier le piteux score qu'ils avaient obtenu aux européennes. Bref, tous les partis, j'en passe pour le Parti Socialiste et les autres, essayent de bénéficier de cette conjoncture au plus possible pour se mettre en ordre de bataille pour les séquences électorales qui arrivent. Et je parlais tout à l'heure de la première, c'est-à-dire celle de septembre 2020, c'est-à-dire les sénatoriales. Hein, c'est un scrutin extrêmement important et donc il ne faut pas rater cette marche. Ouais. Parce que c'est beaucoup d'éléments qui vont ensuite peser très, très lourdement sur la suite. Mais évidemment, tout le monde pense aux législatives et présidentielles de 2022. Donc oui, la crise est là, avec son lot de son cortège, j'allais dire, de morts et son climat très anxiogène, mais la politique, elle aussi, est là et en quelque sorte étincelante.
Elle ne s'est jamais vraiment arrêtée. Hein. Il n'y a pas vraiment jamais eu d'union nationale pendant cette crise. Bruno, je dis, les conditions sanitaires dans lesquelles s'engage cette campagne de deuxième tour, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Est-ce que cette campagne va être audible?
Cette campagne sera d'abord très courte. Je ne suis pas sûr qu'elle passionne beaucoup... parce que d'abord, le premier tour, quand on regarde les résultats, globalement, les maires sortants, c'était l'élection des maires sortants. Les maires sortants étaient très bien placés dans la plupart des villes, et même la droite qui jouait gros avec beaucoup de maires sortants, globalement, est en position de conserver la plupart de ces villes, à part quelques villes, et notamment Marseille, où ce sera sans doute l'élection la plus compliquée pour elle. Donc je ne m'attends pas à des grandes surprises, parce qu'on est dans une élection, finalement, dans une campagne courte, où les candidats vont essayer d'exister, mais ça va être compliqué, une campagne à l'avantage des maires sortants, lesquels maires sortants, en plus, ont pu bénéficier de ces 3 mois pour, dans la plupart des villes, se mettre au service des habitants, faire une campagne qui n'était pas une campagne officielle, mais enfin, la distribution des masques, du gel hydroalcoolique et des services divers et variés ont plutôt favorisé les maires sortants lorsqu'ils étaient candidats. Inversement, les opposants, les têtes de liste qui étaient en campagne contre les maires sortants, elles ont été confinées et n'ont pas pu beaucoup exister. Donc on voit bien que c'est quand même une campagne qui va être à l'avantage des maires sortants, une campagne qui, à mon avis, passera sous les radars médiatiques, comme c'était le cas du premier tour. Donc c'est un scrutin un petit peu biaisé, faut le reconnaître.
Martial Foucault, il va nécessairement y avoir une prime aux sortants après ce qui s'est passé?
Ah oui, moi je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire que dès le premier tour, on a déjà pu observer qui a un certain nombre de villes ou de plus petites communes ont désigné leur maire qui était le sortant. On le verra probablement pour des communes de plus grande taille. Mais cette prime au sortant, je dirais, c'est un jeu à la fois d'une forme de dépolitisation du scrutin municipal, puisqu'on a bien vu que dès le premier tour, la grande prudence, pour ne pas dire la difficulté qu'avaient des maires sortants d'afficher leur affiliation partisane, il fallait cacher le logo, on a vu fleurir ces listes dites citoyennes, qui parfois n'étaient qu'une forme de dissimulation de présence de formation politique.
Oui, dès qu'on a le drapeau, on le met dans sa poche, hein, c'est à peu près ça.
Oui, ou alors on use d'autres stratégies, de présenter finalement une forme de participation citoyenne. D'ailleurs, c'est très intéressant de voir que même au sein des équipes municipales sortantes, on a vu fleurir dans les programmes des outils de concertation citoyenne, de participation, de démocratie participative, et qui était, je pense, davantage un slogan qu'une nouvelle modalité de gouverner les municipalités. Et donc, moi je dirais que sur ce second tour, certes, il y a, comme l'a rappelé Olivier, il y a des prochaines séquences électorales. Je reste quand même assez prudent sur la capacité qu'on aurait à tirer des analyses sur les futurs scrutins au regard de cette élection municipale, parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Et puis, si on pense aux élections européennes, on peut s'interroger pourquoi, dans certaines villes, on avait vu des scores très élevés pour La République En Marche, des scores divisés par deux, voire par trois, parce que le grand perdant, quand même, de ce premier tour, ce sont les candidatures La République En Marche. Donc, la particularité ou la spécificité de ce scrutin municipal va d'une certaine manière permettre aux oppositions de se réaffirmer, et le champ du cygne n'est pas encore là pour ces vieilles formations politiques. Et en même temps, je crois que les résultats de ce scrutin ne nous diront que peu de choses sur la mise en route et comment ces formations politiques vont se mettre en ordre de bataille pour les prochaines échéances. Et on pense à 2022, présidentielle, législative, où là, des jeux d'alliance tout à fait nouveaux vont certainement surgir et nous surprendre par rapport à l'analyse que l'on pourrait faire du scrutin municipal.
Olivier Hill, comment est-ce qu'on fait campagne quand on ne peut pas se serrer la main, quand on ne peut pas faire de réunion électorale, pas de réunion d'appartement? Comment on fait?
Alors d'abord, les réunions publiques se tiennent, hein, elles ont cours et elles sont autorisées d'ailleurs. Simplement, elles se font dans un contexte qui est évidemment autre que pour les précédents scrutins. Par ailleurs, les campagnes aujourd'hui, on le sait, s'organisent beaucoup par le biais des réseaux sociaux. Donc je ne suis pas persuadé, surtout si l'on tient compte de la durée, hein, alors qu'il y avait traditionnellement une semaine entre les deux tours de scrutin, là il y aurait eu plusieurs semaines, à tout le moins, voire plusieurs mois. Donc par des canaux divers, tous les moyens de communication, au fond, les candidats auront pu s'adresser aux électeurs et le pluralisme aura pu s'exprimer. De ce point de vue-là, il n'y a pas de grande différence, sinon même peut-être une campagne qui aura pu s'étendre sur une plus longue période. Mais pour revenir sur l'incidence de ce scrutin, je voudrais insister sur le fait que 95% des conseillers municipaux qui vont sortir élus de cette séquence vont participer dans un scrutin, cette fois indirect, à l'élection de la moitié des sénateurs en septembre. Et puis surtout, ce scrutin, depuis le début, est pris en tenaille entre deux stratégies majeures, souvent sont présentes à l'occasion de ces scrutins dits intermédiaires. Pour le parti en place, l'AREM, faire tout ce qui est en sa possibilité pour éviter que les débats ne se structurent autour de clivages nationaux, autrement dit éviter le vote sanction, et ça a été plutôt réussi. Les partis en déconfiture comme le Parti Socialiste ou les Républicains ont suivi cette stratégie et ont refusé de mettre en avant leur étiquette, eux aussi pour éviter d'être amalgamés avec les résultats des précédents scrutins où il y avait eu des débâcles. Hein. Et puis, un certain nombre de formations d'opposition ont tenté, au contraire, d'aller nationaliser ce scrutin pour en faire, en quelque sorte, un vote pour ou contre l'exécutif. Hein. Et donc, transformer ce scrutin municipal en autre chose, ce qui correspond à des stratégies auxquelles ces scrutins intermédiaires sont toujours exposés. Hein. Ce n'est pas la première fois. Et on peut remarquer qu'effectivement, pour l'AREM, il est fort probable qu'il soit très difficile de proposer une lecture ou une interprétation nationale du sens de ce scrutin au lendemain du 28 juin. Et au fond, ça serait pour ce parti, en tant que tel, une réussite. hein, éviter la casse, éviter que ce scrutin ne pèse sur les prochains, en quelque sorte fermer le plus discrètement possible cette séquence électorale et laisser la démocratie locale à ses propres enjeux, en évitant qu'il soit contaminé par la dimension proprement nationale. Donc je crois que de ce point de vue-là, si on se place sur l'examen des stratégies des partis en présence, il faut observer qu'une partie de nos observations reste décalée. Hein, et au fond que ce scrutin aura été celui que les partis et les médias, après le 28 juin, auront façonné, auront fini par imposer comme interprétation de son sens ou de ses multiples significations.
Bruno Jeudy, le gouvernement, la majorité ont-ils voulu mettre cette séquence derrière, une séquence dont les résultats ne lui ont pas été particulièrement favorables ?
Bon, le gouvernement, de toute façon, le président a bien compris que ces municipales étaient perdues dès le soir du premier tour. Grosso modo, il y a 30 000 maires qui ont été élus. La plupart du temps, c'est dans les petites communes et dans les grandes villes. Il n'y a aucun ballotage favorable. Alors, il y a des alliances qui se sont nouées ici et là, qu'on fait beaucoup parler à Lyon, à Bordeaux. Mais au fond, quand on regarde dans le détail, le nombre de ces alliances, c'est à peu près, je crois, dans 6% des villes. Alors, certes, il y a des grandes villes. Le nombre de sièges que ça représente, gagner éventuellement à Bordeaux, à Lyon, c'est assez faible. Je crois que tout ça est signe plutôt la mort d'un parti. Mon sens, La République En Marche ne se relèvera pas de ces municipales. Je pense que le président de la République l'a compris. Le président de la République ira sans doute vers la création d'un nouveau parti pour sa future campagne présidentielle de 2022. Et cette République En Marche n'a pas réussi son enracinement. Elle a eu 3 ans pour le faire. Ça a été un échec. Le symbole étant évidemment à Paris, où tous les moyens ont été mis. Les candidats, puisqu'il y en a eu deux, ni le programme, ni la stratégie pour essayer, ni les alliances n'ont permis de pouvoir même pas envisager la victoire, mais même pouvoir contester celle d'Anne Hidalgo. C'est un échec tragique à Paris pour la République En Marche. Donc je crois qu'il faut faire Emmanuel Macron fera sans doute une croix sur ce parti et reverra son dispositif politique pour les 2 ans qui restent. Et globalement, moi je souscris pas trop ce qui a été dit avant. Je pense que c'est quand même assez tragique pour la majorité de voir que 3 ans d'efforts pour mettre sur pied sur ce parti et maintenant voir le groupe lui-même se disperser en petite formation supplémentaire à l'Assemblée, c'est pas de bon augure et que ça va plutôt inciter le président à revoir l'ensemble de son dispositif politique, peut-être créer une sorte de maison commune où il ferait cette fois rentrer en bonne et due forme les autres chapelles de centre droit, tous ces formations centristes. Mais ce qui est certain, c'est que ces municipales sont la mort d'une certaine formation macroniste telle qu'elle avait été imaginée en 2017.
Martial Foucault, là-dessus, sur le fait de refaire totalement son dispositif, changer de parti, ou au moins changer de nom, ou changer la façon de l'aborder, vous dites quoi là-dessus ?
Je partage le constat, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'effectivement le grand perdant de cette élection municipale, même s'il ne faut pas préjuger du score du 28 juin dans les grandes villes, mais c'est bien La République En Marche, c'est-à-dire que au fond l'objectif qui avait été assigné au début de l'année par le patron de La République En Marche, Stanislas Guérini, était une ambition d'avoir 10 000 conseillers municipaux en France. Peut-être que ce chiffre sera péniblement atteint, mais au fond, ce qui ressortira, ce qu'on retiendra de cette séquence municipale, c'est l'impossibilité pour cette jeune formation de conquérir des villes symboliques, à tout le moins. Et c'est vrai, on a beaucoup parlé de Paris, mais il en était de même pour Lyon. Il y avait des ambitions également pour Strasbourg, pour Bordeaux. Bon, tout cela n'a pas du tout fonctionné. Est-ce que cela va obliger le président de la République à revoir totalement sa stratégie de parti, même si il semble être très mal à l'aise lorsqu'il s'agit de parler de parti, mais préférant le terme de formation et mouvement, parce que je crois que d'un point de vue sémantique, c'est pas inintéressant de voir que Emmanuel Macron, au fond, n'a jamais cru en la capacité des partis politiques à construire une victoire présidentielle. Donc, qu'il soit dans un, finalement, peut-être que l'on va revivre ce que Alain Juppé avait en 2002 imaginé à travers l'UMP, cette formation qui va au-delà, tout simplement, du corps électoral de La République En Marche et de continuer à aller un coup un peu plus à droite. Est-ce qu'il sera facile d'aller un peu plus à gauche? Je crois que aujourd'hui, les dissensions au sein du Parlement montrent bien qu'il va être très difficile de rallier des parlementaires de gauche. Ça va être très difficile de rallier, et on le voit sur les jeux des alliances pour ces élections municipales, on a davantage des alliances LR, LREM que LREM avec la gauche, Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts. Peut-être que la ville de Nîmes fait exception. Mais donc, cette stratégie pour 2022, elle ne dépendra, de mon point de vue, pas que sur le plan de l'organisation et des structures, mais elle va dépendre aussi, est-ce qu'il y a un remaniement, est-ce qu'un nouveau Premier ministre est là, de quelle sensibilité politique sera-t-il ou sera-t-elle pour imaginer une conception organisationnelle pour donner des chances de victoire si Emmanuel Macron est de nouveau candidat.
Olivier Hill, la rebipolarisation de la vie politique pour la séquence électorale dont vous nous parlez depuis le début de l'émission des 2 ans à venir, elle est inévitable ?
Non, je ne le crois pas. Je pense même l'inverse. Je pense que pour l'instant, ce scrutin confirme, par son mode d'abord de transfert de transmission ou de prise en compte des voix en siège, qu'effectivement on est dans une parenthèse, il s'agit d'un scrutin à part, mais sinon la dynamique ouverte en 2017, qui est celle de droite et de gauche, ou pour le dire dans un terme plus précis, de dynamitage du clivage droite-gauche, continue à avoir cours. Et rien ne permet de dire que pour les prochains scrutins qui arrivent, qui seront organisé avec un autre mode de scrutin, qui ne favorisera pas autant les implantations locales, eh bien cette stratégie-là ne pourra pas encore fonctionner ou être en tout cas réutilisée. Je ne sais pas si elle fonctionnera, mais en tout cas être réutilisée. Pour l'instant, et dans la logique de la préparation du scrutin de 2022, on voit que la stratégie n'est pas abandonnée et qu'au contraire, elle est, on en accélère la mise en œuvre, puisque à travers les investitures dont je parlais tout à l'heure, le travail se fait maintenant vers la droite, vers les Républicains, dont, au fond, cette stratégie accélère la décomposition, pas pour le scrutin local. On le sait, c'est un scrutin de candidats plus qu'un scrutin de parti. C'est un scrutin qui favorise les sortants et qui ne peut pas permettre à un mouvement qui n'avait aucun élu en 2014 de sortir comme ça du bois et de rafler tout d'un coup les mandats. Donc je pense que de ce point de vue-là, la stratégie de débipolarisation continue et va continuer très probablement en vue de préparer ce qui sera le second tour de l'élection présidentielle.
Bruno Jeudy, j'aimerais revenir sur un élément que Martial Foucault a évoqué en début d'émission. Quelle légitimité pour les maires élus à l'issue de ce second tour ?
Alors ça, je suis assez d'accord avec ce qui avait été dit. C'est assez préoccupant parce que il va peser sur ce scrutin, quoi qu'il arrive au second, une sorte de saut de la malfaçon, de quelque chose qui est mal né. Et au fond, on voit bien déjà par les propos des opposants les plus virulents, le Rassemblement national en tête, cette expression de maire Covid est absolument abominable. Et on voit bien que localement, lorsque les maires seront en prise avec des difficultés locales, on leur remettra sans doute le fait qu'ils aient été élus avec 40% des voix là ou moins dans certains endroits. Donc ce sera sans doute une difficulté qui existera dans certains endroits, pas dans d'autres, ce sera évidemment inégal suivant le territoire, mais pour certains maires, notamment, on a vu aussi des alliances un peu étonnantes se nouer, peut-être parce qu'il y a eu 3 mois d'entre-deux tours, alors que sur une semaine, on sait que c'est forcément plus compliqué. Il y a plein de choses comme ça qui pèseront sur ce scrutin, jusque, j'allais dire, à la sortie du scrutin, et peut-être pendant tout le mandat. C'est l'histoire de ces municipales qui n'a pas fini d'être
écrite et réécrite.
Merci Bruno Jeudy, merci également à nos autres invités, Olivier Hill et Martial Foucault, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Christophe Loisel. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur notre site internet RFI.fr ou sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Le prochain débat, c'est demain, même heure, même endroit. Prenez soin de vous et des autres, et bonjour chez vous.
Appelez-nous, exprimez-vous.